Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CCLA France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CCLA France, l'émission qui fait la part belle aux artisans, aux entrepreneurs qui font le pari du Made in France, du fabriqué en France. Et nous sommes le dimanche 7 mars. Demain, c'est la journée de la femme, donc je vous propose de découvrir des femmes de poigne. Trois artisanes lauréates du concours Madame Artisanat. Un plateau 100% féminin, c'est tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et on va commencer avec vous, Catherine Guerniou. Bonjour Catherine.
Bonjour Nathalie.
Alors, mercredi dernier a eu lieu le concours Madame Artisanat, la deuxième édition, lancée chaque année par la Chambre des métiers de l'artisanat pour valoriser les femmes dans le secteur de l'artisanat. Vous avez reçu le prix Madame Engagée, donc vous êtes à Champigny-sur-Marne, à la tête d'une entreprise qui s'appelle La Fenêtrière, fabricante de menuiserie extérieure. À quoi ressemble votre quotidien, Catherine? Pour nos auditeurs, expliquez-nous un petit peu ce métier.
Alors, mon quotidien, il est simple. C'est celui d'une chef d'entreprise, donc d'être au contact surtout de mon équipe, de mes clients. Et donc, mon quotidien, c'est tout simplement gérer l'entreprise, accompagner mon équipe, m'occuper parfois d'aller sur les chantiers également.
Un secteur assez masculin, finalement.
Oui, c'est un secteur masculin, mais les femmes y sont bien reconnues et on a notre place. Et donc, c'est une belle expérience tous les jours. C'est voir ses clients.
Une équipe de combien de personnes vous gérez aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, nous sommes 10 au total, avec peut-être un 11e qui va arriver prochainement.
Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Comment vous avez accueilli alors ce prix Madame Engagée?
Alors déjà, j'ai été surprise parce que je pensais pas l'avoir. Je m'étais mis dans la catégorie artisanat. Et en fait, ça a été génial. Quand je l'ai appris, c'était vraiment... J'étais très, très émue, contente aussi parce que finalement, on se rend pas compte de tout ce que l'on fait. Et donc, c'est aussi une reconnaissance de notre travail quotidien et puis de nos engagements. Parce qu'un prix de Madame Engagée, il y a des engagements. Et ça, c'est vraiment génial.
En fait, c'est marrant parce que pourtant, c'est presque une évidence de vous voir dans ce prix. Vous êtes très engagée. Vous misez sur l'économie circulaire. La production locale est importante pour vous. Vraiment, c'est du locavore, c'est du made in France. Les approvisionnements locaux, travailler avec des salariés qui vivent à proximité, une diffusion locale. Mm-hmm. Vous êtes engagée.
Complètement.
Très engagée.
Complètement, oui, parce qu'en fait... nous, on peut pas rivaliser avec des grosses structures. On a beaucoup d'importations des pays de l'Est. Et donc, il faut mettre en avant ses atouts. Et nos atouts, c'est quoi? C'est justement ce côté local, cette proximité. Et cette proximité, en fait, nos clients, ils en sont satisfaits parce qu'ils y gagnent en temps. Il faut savoir que nos fabrications sont faites en une semaine. Donc, on fabrique des fenêtres sur mesure pour les professionnels du bâtiment en une semaine.
Et vous avez le sentiment, justement, que vos clients vous ont un petit peu redécouvert avec cette période où faire appel à ceux qui sont loin a été un peu plus compliqué.
Exactement. Nous avons découvert de nouveaux clients qui ne pensaient pas avoir des ateliers de production à proximité de chez eux.
Ils vous ont redécouvert, en fait, avec...
Ils nous ont découvert ou redécouvert pour certains.
Alors, il y a toujours cette volonté de pérenniser la production locale, mais toujours à taille humaine. Ça, c'est important pour vous, d'avoir vraiment une équipe qui reste dans une taille raisonnable.
C'est tout le principe de l'artisanat, en fait. C'est avant tout, on valorise les métiers, on valorise les hommes, les femmes. Et ça, c'est notre ADN.
Alors, en parlant d'hommes et de femmes, il y a un autre engagement qui est très fort pour vous, c'est pour le handicap au travail. Vous avez engagé depuis près de 22 ans un salarié sourd, menuisier. Mm-hmm. Et donc en 2020, ou assez récemment, toute l'équipe, non, en 2020 ou peut-être avant, en tout cas toute l'équipe a dû se familiariser avec la langue des signes pour pouvoir communiquer avec lui.
On a commencé un petit peu plus tôt. En fait, on s'est aperçu suite à une qualification métier que l'on a fait, que Frédéric avait des petites difficultés. Et du coup, on s'est fait accompagner pour mieux comprendre ses difficultés, parce que je ne voulais pas qu'il se retrouve frustré en fait, de notre évolution. Et ça a vraiment été une belle expérience. Et en fait, on s'est aperçu tout simplement qu'il fallait aussi qu'on se mette à parler la langue des signes. Et donc, nous avons eu des cours pendant plus d'un an. Alors, c'était un petit peu coupé avec le Covid. Mais voilà, on n'est pas bilingue. Mais en tout cas, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace avec lui dans les échanges. Et donc, c'est aussi plus facile pour lui.
Donc, vous êtes une chef d'entreprise. On l'a bien compris, vous gérez une équipe de 10 personnes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement, quand on est chef d'entreprise? Dans l'univers dans lequel vous êtes, peut-être?
Il faut toujours s'adapter, il faut toujours avoir des idées. Mais je l'épuise aussi beaucoup dans les échanges que j'ai avec des gens que je rencontre, ces femmes que vous allez présenter après, que je viens de rencontrer. C'est ça aussi la richesse, c'est la richesse humaine. Ce sont des aventures humaines. Et je suis aussi engagée au niveau de la filière du bâtiment, puisque je suis à la Fédération française du bâtiment. Donc tout ça m'apporte beaucoup et me donne toujours cette énergie. Donc j'espère que je vais encore l'avoir pour quelques années, mais je commence aussi déjà à préparer la relève.
Finalement, ce concours Madame Artisanat, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer d'autres femmes comme vous, chefs d'entreprise, engagées, mais dans des secteurs différents.
C'est génial, parce qu'en fait, on a toute notre ADN est différent, et en fait, c'est une
belle famille.
C'est une belle famille, exactement.
Merci beaucoup Catherine Garniaud. Alors je vous propose maintenant d'aller découvrir un autre prix, Madame Artisanat.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et en voyage, cette fois-ci on va du côté de la Bourdonnière Saint-Loup avec Claire Babé. Bonjour Claire. Alors
bonjour.
Vous êtes dans la création et la restauration de vitraux, donc vous avez reçu ce prix Madame Artisanat, le grand prix de la catégorie de ce concours. Vous êtes une grande passionnée. Alors vous, vous avez travaillé sur Notre-Dame de Paris récemment en tant que vitrailliste, mais alors vous faites plein de choses. Vous êtes professeur de vitrail, jury d'examen, maître d'apprentissage, président de l'association des verriers de Chartres et d'Eure et Loire. Oui. D'où vient cette passion pour le vitrail ?
Au départ, j'ai choisi ce métier par passion, effectivement. J'ai repris une entreprise parce que je savais que c'était le seul moyen pour moi de m'exprimer et de continuer à apprendre tous les aspects de ce métier de la meilleure manière possible. Et puis alors, quand on est à la tête d'une entreprise qui restaure des choses prestigieuses ou qui crée des choses contemporaines, on est sollicité en permanence et je ne sais pas dire non. Donc je vais partout.
Quels sont les plus beaux chantiers sur lesquels vous avez travaillé, ceux qui vous ont le plus marqué?
Alors,
si vous devez en citer, allez, un petit podium.
Un petit podium, c'est la cathédrale de Chartres,
bien sûr. Bien sûr, l'une des plus belles cathédrales de France.
Tout à fait. La Sainte-Chapelle de Paris, bien sûr. Et puis après, mon cœur balance avec la cathédrale de Auch dans le Gers ou la cathédrale de Bourges que j'adore. Enfin voilà,
beaucoup de cathédrales finalement.
J'aime beaucoup les cathédrales, mais j'ai des églises aussi magnifiques et puis des entreprises privées, enfin plein de choses.
Vous travaillez surtout sur des marchés publics.
Beaucoup de marchés publics, effectivement, un petit peu de marchés privés, mais le gros de l'activité, oui, ça passe par le ministère des Cultures en général.
Alors, ce qui vous plaît, vous, c'est vraiment de travailler de manière collective, le travail collectif, avec une équipe pour justement réaliser les plus belles créations.
Oui, parce que, en fait, dans le vitrail, c'est beaucoup de temps passé et beaucoup d'étapes qui sont très précises les unes derrière les autres. Et on a vraiment des périodes de travail où on doit être en collectif, en chantier, manipuler ensemble, travailler ensemble, trouver des solutions, parce que on travaille sur de l'ancien, donc jamais rien n'est droit, n'est calculé, etc., de façon parfaite. Donc on doit trouver à chaque fois la solution qui va être adaptée à l'ancien. Et donc c'est beaucoup plus motivant de le faire à plusieurs, de réfléchir à plusieurs et de pouvoir aussi apprécier le résultat de notre travail en équipe.
En fait, c'est toujours des petits défis que vous lancez à plusieurs. Puis, je ne sais pas si pour vous, il est aussi, peut-être aussi important de se replonger dans l'histoire du bâtiment que l'on va restaurer. Est-ce que ça fait partie du travail de vitrailliste ?
Ça fait non seulement partie du travail, mais c'est aussi une rencontre. Et c'est pour ça que le sens de l'équipe est très important. On est à la fois une équipe de 2020, on va dire, ou de 2021. Mais surtout, on s'inscrit dans une chaîne de restaurateurs. C'est-à-dire que quand on intervient sur un vitrail du XIIIe siècle, il y a déjà un certain nombre de personnes sont passées, le créateur de l'œuvre et ensuite tous les restaurateurs suivants. Et donc, on est un maillon de la chaîne, en équipe. Et donc voilà, on ne peut pas imaginer ce travail-là avec un raisonnement complètement individuel. Ce n'est pas possible. On s'inscrit dans une grande chaîne et on transmet ça aux générations suivantes.
Alors, monsieur le ministre Alain Griset, qui vous a remis ce prix, le disait justement, vous travaillez, votre travail va traverser les générations et peut-être même des siècles.
On espère, on fait tout pour.
Alors, vous évoluez dans un métier qui est là aussi plutôt masculin, mais il se féminise de plus en plus. C'est un métier qui est physiquement difficile.
Alors on a, oui, bien sûr, physiquement des périodes, quand on est en chantier à 30 mètres de haut, à porter des poids toute la journée ou à prendre des positions un peu étranges sur les échafaudages, oui, c'est très physique.
C'est une raison pour laquelle peu de femmes vont vers ces métiers-là ou ça peut freiner?
En fait, depuis une trentaine d'années, il y a de plus en plus de femmes. dans ces métiers-là. Au départ, les femmes étaient surtout cantonnées aux ateliers et peu en chantier. Et puis, heureusement, ça évolue et on voit de plus en plus de femmes sur les chantiers, sur les cathédrales, sur les églises. Ouais. Et donc ça, ça fait plaisir. Et puis, les autres corps de métier commencent à se féminiser aussi. Donc, quand on voit des architectes, des tailleuses de pierre, des sculptrices, des restauratrices de peinture, en même temps que nous, réunions de chantier, ça fait vraiment très plaisir.
Alors, vous avez remporté de nombreux prix. En 2009, le titre d'artisanat d'art, CMA Eure-et-Loire. En 2013, le prix Maître artisanat d'art, toujours à la Chambre des métiers de l'artisanat d'Eure-et-Loire. Des prix dans les arts décoratifs, à Paris, le Salon d'automne Paris. Premier prix régional Centre en conservation, restauration en 2015. Vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant. Et là, un nouveau prix, ce prix Madame Artisanat. Alors, pourquoi avoir postulé justement au concours Madame Artisanat?
Ben alors, en fait, j'ai postulé parce que je trouve que c'est important, en fait, de participer à ce qui met la femme un peu en valeur dans ces métiers-là, parce qu'on est souvent, ben, finalement, pas la cinquième roue du carrosse, on est présente, hein, mais on parle peu, en fait, de tout ce qu'on fait. On est souvent dans l'ombre, et donc je trouvais ça important, en fait, de participer à ça. Et puis alors le gagner, c'était juste inespéré, donc je trouve ça absolument génial. Et puis c'est vrai que ça permet aussi de prendre du recul sur un parcours. En fait, moi j'ai la tête dans le guidon tout le temps, donc je ne me rends pas forcément compte de tout ce que j'ai fait. Donc c'est très très bien de pouvoir en parler et en fait de m'apercevoir que si j'ai déjà fait...
pas mal de choses
j'ai bien
finalement.
Construit, hein. J'ai bien construit et c'est bien et j'espère vraiment que plein de femmes vont faire la même chose.
Mais oui, ça, c'est vrai que la transmission pour vous elle est importante, donc peut-être aussi inspirer de nouvelles générations plus féminine, qui pourrait là aussi se plaire dans ce métier-là.
Ah oui, dans mon métier ou même dans d'autres
dans
métiers.
Dans l'artisanat, mais en général.
Ouais. Oui, c'est ça, que les femmes n'hésitent pas à se lancer et on arrive à tout cumuler. On arrive, c'est ce que disait Catherine, en fait, on a une sorte de liberté qui nous donne aussi une force, une dynamique. On fonce et alors, c'est pas facile tous les jours.
Hein. Non, mais surtout aujourd'hui avec ce Covid qui malheureusement...
C'est déstabilisant, mais en même temps, il y a un épanouissement. En fait, on choisit notre destin et ça, c'est très important.
Alors aujourd'hui, les chantiers sont un petit peu au ralenti, malheureusement, avec cette période-là. Vous espérez, oui, j'imagine, reprendre assez rapidement. Comment vous vivez cette période, justement?
Ben, au début, j'étais très angoissée. Et puis, j'en ai pris mon parti et je me suis dit, bon, je connais l'entreprise, je sais comment la gérer. Donc, j'ai fait tous mes calculs. J'ai fait en sorte de mettre en place ce qu'il faut pour passer la période et puis être prête à redémarrer à fond quand ce sera possible. Mais en tout cas, je sais comment préserver mon entreprise. Je réduis la voilure, je vogue sur les vagues jusqu'à ce qu'elles se calment un peu et on espère que la mer va devenir belle.
Calme, enfin.
D'ici quelques mois, voilà.
Apercevoir l'horizon au loin.
Exactement.
Non, mais c'est ça qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire, quand vous êtes chef d'entreprise, vous gérez les chantiers, vous gérez l'entreprise, les salariés, le chiffre d'affaires. Enfin, on n'imagine pas hein, toutes ces cordes à votre arc.
Même nous, on n'imagine pas, en fait, quand on liste toutes les tâches qu'on fait dans l'année, enfin, à la journée, au mois, dans l'année, on en oublie forcément, en fait. On est vraiment, on est pire qu'un ordinateur. On en a 100 000 des ordinateurs dans la tête. Il faut passer
d'un truc à l'autre. Il faut pas bugger.
Ça nous arrive un petit peu, mais on est humaine, heureusement.
Merci beaucoup, Claire Babien. Je rappelle que vous avez reçu le prix Madame Artisanat. Vous êtes la lauréate 2021 de son concours Madame Artisanat. Allez, on va se quitter une courte pause et on se retrouve juste après avec un autre coup de cœur de ce concours Madame Artisanat et une autre femme, là encore engagée, mais dans un secteur complètement différent. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CSLA France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui met en avant les entrepreneurs et aujourd'hui les femmes dans l'artisanat. Demain, c'est la journée de la femme et on en profite, on vous met des talents en avant, des femmes qui se sont engagées, passionnées, mobilisées. Alors je vous propose justement de découvrir un coup de cœur de ce concours Madame Artisanat et on en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Mélanie Lecornet. Bonjour Mélanie.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes dans les Pays de la Loire, dans le Bouguenais, c'est ça?
Voilà, tout à fait, en métropole nantaise.
Et vous, votre entreprise s'appelle Atelier Popote, dans la conserverie de légumes bio. Donc, juste pour expliquer un petit peu votre parcours à nos auditeurs, vous avez voyagé, vous avez travaillé entre Nantes, Paris, en Angleterre, dans différents postes, mais toujours dans la cuisine, la restauration. Vous avez géré donc des équipes de plusieurs salariés, jusqu'à une vingtaine de salariés, voire trentaine. Vous avez créé votre entreprise de traiteur. Et ensuite, en 2017, vous créez l'Atelier Popote, une conserverie de légumes bio. Alors, Quesaco, je sais, on n'est pas en Bretagne, mais bon, Quesaco, qu'est-ce que ça veut dire, popote?
Ben en fait, c'est une grande aventure qu'on a eue avec Karine, avec qui on a fondé la conserverie. On a voulu, dans l'alimentaire, moi je suis cuisinière de métier, donc j'ai voulu créer des produits. Des productions locales, avec les maraîchers qu'il y avait sur le secteur. Et en allant les voir, en les rencontrant, on s'est vite rendu compte qu'ils avaient une grosse problématique de surplus. Donc on a pris un peu le problème à l'envers et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en utilisant ces matières premières-là. Et on a décidé d'inventer, de créer différentes recettes un petit peu adaptées au goût du jour, on va dire, avec tout ce qu'on pouvait trouver sur notre territoire.
Donc vous transformez les surplus de production de légumes?
Voilà, soit des surplus, soit des légumes moches, soit des fois différentes productions qui arrivent et qui n'ont pas forcément de distributeurs ou des magasins qui peuvent les refuser aussi des fois parce qu'ils sont un peu avancés. Donc,
Et qu'est-ce que vous en faites alors? Des soupes, des sauces, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez comme recette?
Alors nous, on est obligé de faire du liquide ou semi-liquide hein, puisqu'on broie tout, puisqu'ils ont des formes un peu particulières ou qui sont un petit peu avancées. Donc on fait, oui, des soupes dans des petits formats. Donc c'est adapté aussi pour pouvoir emporter, bouger. On fait des sauces pour pouvoir cuisiner, parce que les gens se sont beaucoup remis à cuisiner pendant le Covid. Donc c'est un peu des aides culinaires où on demande aux gens quand même d'être un peu créatifs, de rajouter des choses, parce que nous on en met très peu dedans. Il y a très peu de sel, il y a aucun additif, aucun conservateur. Donc après les gens s'amusent avec nos produits et créent leurs propres recettes.
Alors, vous commercialisez ensuite ces produits. Alors, les clients, vous avez des clients prestigieux comme Airbus notamment.
Oui, tout à fait.
Qui travaillent avec vous, qui font, c'est bien, qui mettent en avant justement ces produits fabriqués avec du surplus de production.
Voilà, parce que ça rentre aussi dans une démarche RSE, hein, puisqu'on a des entreprises locales qui jouent le jeu, qui proposent des produits sains, éco-responsables à leurs salariés. Et donc, c'est parfaitement adapté pour la petite pause du midi.
Donc, il y a des gros clients comme Airbus, mais également les petites boulangeries, les magasins bio également.
Voilà, bah tous les gens, nous, comme c'est une aventure un peu folle qu'on a démarrée il y a bientôt 4 ans, c'est des gens un peu comme nous qui croyaient aussi à faire des produits un petit peu différents, à utiliser toutes ces matières-là. Donc on a eu des gens très engagés, très militants dès le début. Et puis petit à petit, on avance. On a à peu près 110 points de vente là, à l'heure actuelle. Donc on gagne
110 points de vente.
On gagne du terrain petit à petit.
En dehors de... Vous êtes un peu partout en France ou vous restez quand même pour l'instant autour de votre région, Pays de la Loire?
On est à 95% autour de chez nous. Après, on a quelques clients des fois qui, par je ne sais quelle voie, ont entendu parler de nous et nous demandent si on peut leur envoyer des produits. Donc ça reste en France, mais on le fait occasionnellement. Mais on ne va pas faire de démarchage très très loin en fait.
Vous avez également lancé une solution clé en main adaptée aux agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
En fait, on s'est rendu compte que y avait un grand intérêt pour le circuit court. Les consommateurs, ils veulent voir où ont poussé les légumes, où est la ferme, qui les a produits. Ils veulent beaucoup de transparence dans l'alimentaire et c'est tant mieux ces dernières années. Et donc, les agriculteurs se sont dit, et on a travaillé avec eux aussi pour justement leur surplus, plutôt que nous de trouver des clients. Eux, ils en avaient déjà sur place qui venaient à la ferme. Ils ont une problématique en plus en hiver, c'est qu'à part du chou, des fois, ils n'ont plus grand-chose. Donc là, ils ont des produits très colorés, ils proposent des sauces tomates où on a utilisé leurs tomates en surplus. On leur fait plein de petites recettes qu'ils mettent sur leurs étals.
C'est vrai qu'il faut se réinventer. On ne peut pas constamment proposer la même chose.
Non, parce que le consommateur, même s'il veut être en local, même s'il veut faire attention, il a besoin de diversité. Donc, il faut créer des choses un petit peu différentes et lui donner envie aussi d'essayer.
Donc ça, c'est votre travail aussi, élaborer des nouvelles recettes, essayer d'aider les agriculteurs à changer un petit peu l'offre de produits finis.
Tout à fait. On fait des mélanges un peu osés de temps en temps et on demande aux gens de nous suivre dans nos délires un petit peu. On fait des gazpacho. Là, on arrive en été, on met de la betterave avec de la pomme, des fois des carottes. On ne fait pas que de la tomate. En gazpacho non plus.
Et comment cette initiative est-elle accueillie par les agriculteurs ?
C'était un long travail déjà, parce que c'est du réseau, du lien qu'on a créé en beaucoup de temps, parce qu'ils sont très sollicités par plein de gens, et des fois, il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le bout ou qui ne sont pas forcément ce qu'ils pensaient au départ. Donc, c'est quand même des gens qui travaillent dur et qui font attention à ce qu'ils font. Hein. Et au départ, il a fallu se faire confiance, essayer, faire goûter, et maintenant, ils sont ravis, hein, parce qu'ils sont là. C'est super, et puis c'est leurs légumes, donc ils trouvent ça trop sympa.
Alors, vous auriez pu vous retrouver dans la catégorie Madame Engagée, parce que vous aussi, vous êtes très engagée contre l'exclusion sociale. Et dans le cadre des personnes qui travaillent avec vous, vous sollicitez notamment du personnel en insertion professionnelle.
Voilà, c'est un choix qu'on a fait, nous, au départ, un choix stratégique. On s'est dit, il y a déjà des ateliers, il y a déjà du personnel qui, à certains moments de l'année, ont moins d'activité. Donc, on veut optimiser et les ressources, les matières premières, mais aussi tout ce qui va être machines et personnel déjà présent. Donc, on a sollicité différents CAT et on travaille très bien avec eux depuis le début et on élargit encore d'année en année. Ouais.
Et à côté de ça, un respect de l'environnement, bâtiments biosourcés, véritable engagement là encore. Hein.
Du bois, des panneaux solaires, des gravillons, surtout pas de bitume. On essaye de faire au mieux, ouais.
Et depuis la création d'entreprise, combien de tonnes de légumes ont été valorisées? Vous avez une idée ou pas?
Non, alors je sais que la première année, on était à peu près sur 4 et cette année, on doit être à 18-20. Donc, on progresse.
Merci beaucoup Mélanie Lecornet. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'entreprise Atelier Popote. Alors, un dernier mot pour toutes les trois. Que dire aux jeunes filles qui nous écoutent et aux jeunes femmes qui souhaiteraient peut-être postuler à ce concours Madame Artisanat? Pour quelles raisons doivent-elles le faire? Je commence avec vous Mélanie Lecornet.
Parce que si on postule pas, on est sûr de pas gagner, je pense.
C'est pas faux. Claire Babet. Je rappelle que vous êtes vitrailliste, vous êtes dans la création, la restauration de vitraux. Que dire justement à toutes ces femmes qui nous regardent et voilà, qui nous écoutent surtout et qui se demandent, tiens, est-ce que je postule ou pas? Est-ce qu'il faut y aller?
Moi je pense qu'il faut postuler quand on a un parcours bien rempli et on n'a rien à perdre à se présenter et à montrer à quel point on est engagé ou en tout cas engagé dans son métier, engagé dans son avenir.
Reconnu dans son métier aussi.
Voilà, donc il faut y aller, il faut montrer que les femmes sont là.
Ouais, comme je le disais tout à l'heure, la transmission qui est importante pour vous, transmettre les savoir-faire. Catherine Garnoux, alors pour quelles raisons ces femmes qui nous écoutent doivent postuler pour l'année prochaine, pour le prochain concours Madame Artisanat?
Je pense qu'il ne faut pas rester spectateur, hein, il faut être acteur. Donc soyez actrice de votre destin, de votre avancée et tentez votre chance. C'est une super aventure. Nous on se connaissait pas il y a encore quelques temps. C'est du partage, c'est super. Allez-y.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez-y, on compte sur vous. L'année dernière, 200 dossiers, cette année, 250. Donc j'espère que l'année prochaine, il y en aura deux fois plus. Merci à vous, merci à toutes les trois. Encore un grand bravo.
Et merci Nathalie.
Je souhaite une très belle journée de la femme à toutes les femmes qui nous écoutent demain, le 8 mars. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite, bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.